With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue dans le premier épisode du podcast The Raccoon Club. Je m'appelle Léa Camilleri, j'ai 33 ans. Vous me connaissez peut-être à travers mes aventures en vidéo YouTube ou Instagram depuis maintenant 9 ans. Cependant, je me suis rendu compte depuis tout ce temps que je ne m'étais jamais vraiment livrée, ni vraiment dit qui j'étais, et ce qui m'a poussée à être celle que je suis aujourd'hui. The Raccoon Club, c'est ma nouvelle aventure. Je vous invite à enfiler votre petit bandana de scout, de vous asseoir près de moi autour du feu qui crépite, et de vous laisser embarquer par l'histoire que vous allez entendre. Dans chaque épisode, vous allez découvrir un de mes proches, quelqu'un de mon entourage, qui a une histoire, son histoire à raconter. Et peut-être, en connaissant mieux mes proches, on apprendra à mieux se connaître. Mon père est musicien, et plus précisément bluesman. Je me rappelle le voir jouer de la guitare juste pour mes frères et moi. Je me rappelle voir les gens l'applaudir à ses concerts sans vraiment réaliser que ce n'était peut-être pas la vie d'un père tout à fait banal. J'entends sa voix et son accent américain alors qu'il n'a jamais traversé l'Atlantique. Je me rappelle lui dire de se garer plus loin au collège pour pas que mes camarades de classe ne voient son perfecto. Aujourd'hui, je regrette tellement. Tellement je trouve ça cool. Et comme la vie ne fait pas de coïncidence, au printemps 2019, je tombe amoureuse. Je saute alors pieds joints dans la vie bien remplie d'un homme qui, lui aussi, ne vit que pour la musique. Nos vies s'entremêlent, je rencontre sa famille, ses amis, ses meilleures amies, qui sont aussi musiciennes. Et leur groupe ont tourné ensemble. Ils s'appelaient les Starliners, elles s'appelaient les Plasticines. À ce jour, les Plasticines est le seul groupe de rock français uniquement composé de femmes. De quatuor à trio, elles ont marqué toute une génération, et peut-être la vôtre. Il ne m'en fallait pas plus pour leur demander de passer la soirée avec moi autour du feu. Écoutez l'incroyable histoire des Plasticines.
Il y a certes leur plastique. Attention, voici leur musique, les Plasticines.
Peut-être le groupe de rock le plus sexy du monde.
Les Plasticines.
Don Jett's first music teacher told her girls couldn't play rock and roll.
A Plasticine sign.
What with Plasticine?
Les Françaises des Plasticines sont sur la scène de C'est à vous.
Plasticine.
On est un groupe de rock, on restera toujours.
Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on est entre copines. Je suis actuellement avec Cathy et Anna à ma droite et Louise sur mon téléphone. Ouh. Mais qui êtes-vous ?
Qui sommes-nous ?
Salut Cathy !
Salut Léa !
Bonjour !
Mais qui on est ? On était les Plasticines pendant plus de 10 ans.
Les Plasticines, je pense que c'est un nom dont beaucoup de gens se souviennent. Mais qu'est-ce que c'était ? C'est ça !
Et c'est là où tu dois mettre le jingle de Loser.
Non, j'en ai pas ! Ah ! On était les Plasticines.
Ouais.
Bah, les Plasticines, c'est un groupe de copines de lycée qui a formé un groupe en 2003 après avoir vu les Strokes en concert, qui était un concert au Zénith, je crois. Et justement, après le concert des Strokes, on s'est dit, mais ces mecs sont trop cool là, sur scène, on veut être comme eux exactement. On veut être des mecs, en fait, sur scène, avec des guitares. Et donc, on a formé Plasticine et on a commencé à 3.
Au lycée, donc ?
Au lycée, à Saint-Cyr l'école. Et du coup, on faisait ça pendant les pauses au lycée. On allait aussi aux répètes, ou parfois on séchait les cours même pour aller faire des petites répètes.
Mais tout le monde jouait déjà d'un instrument ?
Non, en fait, on a commencé ensemble, c'est-à-dire qu'on a formé le groupe et commencé notre instrument en même temps.
Trop fou. Genre, ouais, je veux donc, devenir
rockstar. Ça devait être beau, quoi.
Ouais, ouais.
Tu joues quoi, là ? Je sais pas.
On avait 16 ans. On a demandé pour Noël à nos parents chacune un instrument. Donc une batterie. Marine et moi, on avait une guitare. On n'avait pas encore de basse à l'époque. Et du coup, on a loué un studio sans savoir jouer. On s'est dit, bon, allez, on y va.
Les plus grosses arnaqueuses du monde. Non, mais c'est génial parce que la plupart, c'est des musiciens qui se rencontrent. C'est souvent comme ça que ça se passe et qui forment un groupe. Vous êtes construites ensemble.
On s'est complètement construites ensemble. Et en fait, c'est justement le fait d'être copines et de jouer ensemble, ça nous motivait pour à chaque répète, en fait, essayer d'être de meilleures à chaque fois, en fait, pour justement pas être à la ramasse et se dire « Ah, c'est cool ce que t'as fait, là !»
Et du coup, ça, c'était en 2003.
Et donc ça, c'était en 2003, ouais.
Et vous avez fait ça pendant combien de temps, à peu près ? Et
on a fait ça pas très longtemps, finalement, même pas un an, je crois. Parce que
et en feu, après, les plasticines se sont arrêtées. Donc
Non, mais je veux dire, les petites répètes en même temps que le lycée, tout ça, c'était pendant un an. Et ensuite, on a signé avec notre maison de disques.
Mais c'est arrivé super vite.
C'est arrivé hyper vite, ouais.
Mais comment on se fait signer aussi vite en étant un groupe tout jeune ?
En fait, je pense qu'on était tellement motivés que, en fait, on voulait tout donner pour faire ça, pour arriver à un certain but. On avait à chaque fois des petits objectifs, pardon. Et du coup, on donnait tout pour arriver à nos fins, en fait. C'est-à-dire qu'au début, quand on répétait, nous, à Saint-Cyr l'école, dans notre petite banlieue, on nous disait, non, les filles, vous n'êtes pas prêtes. D'abord, faites des petits concerts dans votre ville. Après, faites des petits concerts dans la ville d'à côté. Puis après, quand vous serez un peu mieux sur scène, bah, vous pourrez aller faire des concerts à Paris. Nous, on a dit, bah non, pas du tout. On va aller faire directement des concerts à Paris. On n'avait pas envie d'écouter, en fait, ce qu'on nous disait. On voulait faire comme nous, on avait prévu de le faire. Et je pense qu'on s'est donné les moyens pour arriver à faire un truc plutôt cool, quoi, entre copines. Et peut-être qu'on a été là aussi au bon endroit, au bon moment, mais je pense qu'on s'est donné les moyens d'être là au bon moment. Et c'est tout aussi.
Et qu'est-ce que ça change, du coup, alors, d'avoir un label ? Est-ce que tout s'accélère ? Est-ce qu'on prend des décisions ?
Ça, évidemment, parce que déjà, on rentre en studio. Mm-hmm. Donc nous, on ne connaissait pas du tout, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on vient d'un milieu qui n'est pas du tout artistique. Nos familles, ils ne sont pas musiciens, ils ne sont pas artistes. Donc on rentre dans un milieu qu'on ne connaît pas du tout et qu'on découvre juste. Donc forcément, tout est merveilleux pour nous. Enfin, on accède à un monde auquel on rêvait. Et là, maintenant, c'est devant nous. Et donc pour nous, c'était vraiment. On avait 17-18 ans.
Vous étiez hyper jeune.
Oui, on était jeunes, ouais. Mais c'était marrant, en fait. Tout était. Que du bonus pour nous, en fait. Parce qu'au début, c'était... on n'avait pas non plus une perspective où on pensait vraiment, à la base, faire des albums.
Et est-ce que tout ça, c'est compatible avec les études ?
Alors, justement...
Non.
Non, bah, ça a été un peu plus compliqué, forcément, niveau études, quand on a commencé à faire le groupe. Parce qu'on avait un peu la tête ailleurs. Après, ce qui avait été un peu clarifié entre notre manager et nos parents, parce qu'il avait fait un sort de petit dîner, réunion de parents d'élèves. Et donc, il avait rassuré nos parents, parce qu'on n'était pas encore majeurs, en disant « Elles vont passer leur bac, vous inquiétez pas. » moi, je vais m'occuper d'elle, tout va bien se passer. Et donc, il les a rassurés de cette façon-là. Du coup, moi, je sais que mes parents, ils m'ont toujours soutenue à 100%. J'ai jamais eu de soucis par rapport à ça, par rapport à eux. Et ils m'ont laissé faire complètement ce que je voulais. Alors, tant que, justement, voilà, les études, ça allait plus ou moins, bah, ils me laissaient tranquille.
C'était tranquille.
Ouais.
Mais, et ce manager-là, vous aviez confiance, ça se passait bien et c'était le bon, quoi.
On l'a rencontré en fait presque au tout début, parce que c'est vrai que du coup, nous, on fréquentait quand même pas mal tous les petits bars où il y avait des concerts. On traînait avec pas mal de groupes de l'époque.
Forcément.
Et en fait, du coup, ça a ramené aussi plein de gens un peu plus âgés qui, du coup, aimaient le rock quand ils étaient plus jeunes. Et de voir cette scène en fait qui émergeait, bah, ils venaient. Donc, c'est-à-dire, il y avait des anciens journalistes, il y avait des écrivains, il y avait des anciens rockers. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple, notre tout premier concert avec Plasticine, qui était dans un petit bar un peu pourri dans le 20e, on faisait la première partie d'un groupe qui s'appelait les Bratz. Et à ce concert-là, par exemple, il y avait Virginie Despentes dans le public.
Trop fou.
Donc, c'est quand même assez incroyable pour un petit groupe de banlieue qui arrive comme ça de nulle part, et d'avoir Virginie Despentes et Patrick Odeline aussi, qui était dans le public.
Donc, c'est premier marrant. Concert.
Premier concert.
À Paris, dans le 20e.
Exactement. Et à partir de ce concert-là, en fait, on a eu un petit article, pas vraiment un article, c'était vraiment genre quelques lignes.
Un article louné.
Oui. Et qui parlait de nous dans Rock'n'Folk, et pour nous, c'était incroyable. C'est-à-dire que
j'en avais dans mes toilettes, mon père, il les collectionnait.
Non, mais c'était dingue pour nous. Moi, c'était le journal, le magazine que mes sœurs lisaient. Donc pour moi, c'était incroyable d'avoir même trois mots dedans, en fait. Et donc, ça a commencé un peu comme ça. Et je pense que ce petit article a fait qu'après, justement, on a eu des maisons de disques qui ont commencé aussi à nous contacter, à s'intéresser à nous.
Les plasticines cherchaient une nouvelle batteuse, parce que moi j'ai intégré le groupe un petit peu après.
Un petit peu après, ouais.
Et donc un de mes copains m'avait dit, mais envoie-leur un mail, tu verras. Bon voilà, et puis moi j'avais été sur leur page MySpace à l'époque.
Bien sûr.
J'avais pas forcément accroché à la musique, hein, pour être très honnête, ce qui est très bizarre d'ailleurs. Et par contre, c'était MySpace, avant il y avait les dates de tournée en dessous, et il y avait toutes les dates de tournée de la tournée européenne qui commençaient. Et j'avais envoyé un mail aux plasticines en disant, je joue de la guitare mais pas bien, j'ai fait 3 cours de saxophone et j'ai une batterie que j'ai montée à l'envers, parce que quand j'ai acheté ma première batterie, j'avais jamais joué de batterie et je l'ai montée à l'envers, voilà, j'avais monté tous les fûts à l'envers, j'en ai un peu joué, mais ça fait un an que j'ai arrêté, mais j'aimerais quand même jouer dans les plasticines.
Tu nous as dit, ça fait 2 ans que je fais de la batterie, mais ça fait un an que j'en joue plus.
Voilà. Bon, donc les filles ne m'ont jamais rappelé. Voilà, ça c'était mon premier mail.
Mais je me souviens de ce mail complètement. Ouais. Enfin, ce message MySpace.
Le pire mail au monde à envoyer, mais j'ai quand même persévéré et un jour je suis tombée sur Louise dans une soirée et voilà.
Ah oui, le destin quand même.
Notre vie a commencé, mais voilà, faut jamais
baisser les bras.
Ouais, faut tout donner quoi.
Faut envoyer le mail.
Voilà. Envoyer des mails, mais pas trop. Voilà.
Essayez de vous vendre un peu mieux par
un
contre.
Un peu mieux, voilà.
Déplacez-vous.
Déplacez-vous. Ouais, allez-y. Ouais, allez-y les mails.
Montrez votre batterie, montrez à l'envers, c'est pas grave. Ouais,
une fois qu'on a passé ça, une fois qu'on a fait des petits concerts à Paris, une fois qu'on a convaincu un public, entre guillemets, et des managers et des maisons de disques, comment ça se passe, comment ça s'enchaîne et qu'est-ce qui se passe du coup pour le groupe?
Bah en fait, ça s'enchaîne très très naturellement, c'est-à-dire que pour nous, on a signé, on sort un album, on est en studio, ça c'est quand même incroyable.
Qui s'appelait le premier album?
Qui s'appelait LP1. Et tout simplement, on n'a pas été chercher très loin. Mais voilà, c'est un disque qui a été fait aussi très rapidement. Donc on a signé rapidement, on a fait un album, je pense qu'on l'a enregistré en 2 semaines. Et écrit du coup en vraiment pas très très longtemps avant. Et c'est un disque qui avait été écrit et réalisé dans l'urgence. Du coup, vraiment, c'était pour montrer... Je pense que ça montre en fait toute cette jeunesse, toute cette énergie en fait qu'on avait et qu'on a transposé sur l'album.
D'accord. En fait, vous avez commencé à faire des concerts avant de faire des disques.
Ouais, c'est souvent le cas. Hein. Mais c'est souvent comme à la base, vu que c'était un petit groupe de copines, nous, on faisait des petits concerts. Enfin, comment dire, on avait envie de s'amuser. On a envie. Enfin, c'était ça le but du groupe. C'était juste de faire de la musique entre copines pour s'amuser.
Mais effectivement, je pense que à l'époque, tu faisais des concerts avant de sortir des trucs. Maintenant, c'est tellement simple d'enregistrer des chansons et t'en sors tout le temps. Et les concerts, c'est vrai que ça vient peut-être un peu après, mais à l'époque, en fait, tu faisais que des concerts et quand tu sortais, tu sortais pas de chansons comme maintenant, un peu toutes les 2 semaines, parce que t'as enregistré chez toi et que ça sonne hyper bien avec toute la technologie.
C'est vrai que maintenant, il y a une façon d'enregistrer la musique qui est hyper accessible, en fait. Tout le monde, chez soi, avec son ordi, peut avoir accès. Donc la musique a complètement changé entre le moment où nous on a commencé et la façon dont ça se fait maintenant en fait.
Vous sentez la différence quand même en quelques années, puisque
c'est un peu old school en fait.
2003 le début jusqu'à maintenant en fait.
Ouais.
Vous sentez vraiment la différence.
17
ouais,
ans.
Ouais, complètement.
Oh là là.
Comme vous étiez pas mal en studio, il y a eu, j'imagine, aussi pas mal de concerts qui se sont enchaînés après les albums.
Exactement.
Est-ce que parce que de mémoire, il y en a quand même vachement, puisque j'ai potassé votre fiche Wikipédia. C'est très triste de stalker ses copines. Et est-ce que vous pouvez me dire à peu près combien de concerts en tout vous avez fait?
Okay. Alors, j'avais une liste.
Ah, moi, je crois que j'ai le nombre.
Eh ben, tu vas pouvoir nous dire.
J'avais une liste et je pense que j'en étais déjà à 300.
Mais non.
Je pense qu'on est à plus.
C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein.
Et on a bien bossé.
En tout cas, juste pour LP1. Vous avez fait 5 pays, 33 villes et 40 concerts.
Ah, c'est pas mal, ouais.
Et après, c'était bien plus.
Et pour le Beach Tour, on reviendra plus tard sur cet intitulé d'album et de concerts. Vous avez fait 8 pays, trop fou, hâte de voir lequel. 55 villes et 98 concerts.
Ah ouais, c'est pas mal.
Au moins, ouais. Et ça, c'est sans compter...
Puis je pense que la liste
les concerts privés qu'on a fait, les FNAC qu'on a fait.
Oui, je pense que c'est pas du tout compté dans cette liste.
C'était, je pense que.
Non, mais c'est dingue en fait. On a vécu un truc de fou quoi. C'est vrai quand tu me le dis, toi, en effet, vous avez fait tant de pays, tant de concerts, ouais. Ça paraît incroyable. Et surtout quand je viens de raconter l'histoire où on était au lycée entre copines. Et là, tu me dis ça juste après. C'est vrai que l'histoire est quand même pas mal.
Ouais.
Anna est arrivée au meilleur moment de la
meilleur
tournée.
Meilleur moment.
C'est-à-dire
qu'elle arrive dans le groupe. Fait. Qu'est-ce qu'on lui propose comme premier concert?
Rome,
soirée
la Grèce, tournée européenne.
On lui a fait croire que c'était la belle vie tout le temps. Pas du tout.
Après, elle a fait Port-le-Cat, Barcarès. Donc les concerts les plus fous, c'était un peu plus sur le second album ou pas?
C'était sur le premier album, mais la deuxième partie. Quand on a commencé à faire toute l'Europe, où vraiment on a été en Angleterre, on a été en Espagne beaucoup, on a été en Grèce, en Italie.
Il y a un petit cluster de fans espagnols ou...
Fans espagnols, femmes...
Un petit cluster de fans sud-américains, en fait.
C'est marrant.
Beaucoup. Non, mais vraiment. En fait, on avait été faire la première partie de The Hives au Brésil. Et ce qui était étonnant, c'est-à-dire que...
Elle te dit ça avec une normalité.
C'était quoi ce groupe, Obliquity Eyes?
Ah ouais.
Et nous, on était hyper étonnés, c'est-à-dire qu'on s'attendait... L'album n'était pas sorti là-bas du tout. Et en rentrant après le concert à l'hôtel, on avait plein de fans qui nous attendaient. Et on a trouvé ça drôle, c'est qu'en gros, ils nous demandaient d'autographes à nous et pas aux Eyes.
Et eux, ils passaient, redescendaient du bus et ils passaient comme ça. Moi, j'étais là... Oh.
Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à un accueil comme ça. Et c'est vrai que même depuis, on a toujours reçu beaucoup de messages de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale aussi. On a eu beaucoup de messages de fans mexicains. Alors, c'est un pays où on n'a jamais été.
Jamais été.
Et l'album n'est jamais sorti là-bas.
Et vous êtes des idoles absolues et vous ne le savez pas.
J'ai un Mexicain qui s'est tatoué mon nom.
Non.
Tu sais, dans les baguettes, j'avais toujours des baguettes avec des je sais plus comment ça s'appelle là, les trucs que tu mets autour des raquettes de tennis. Bon, bref, des grips. Et elles étaient en carreaux et il s'était fait tatouer une paire de baguettes avec des petits carreaux marqués Anaïs dans des baguettes.
Oh, je savais pas.
Voilà. Et je le vois toujours regarder mes stories sur Instagram.
C'est fou. Tu lui parles des fois?
Pas du tout.
Ah, mais c'est génial.
Et du coup, ça fait quoi de se rendre compte qu'on marche non plus dans son pays, mais dans d'autres pays? Que la musique est universelle.
On était toujours étonnés, je crois.
Ouais. Alors, je pense aussi qu'on avait du mal à réaliser.
Ouais.
Et on était étonnés. Après, on disait, vous allez partir en Grèce, vous allez à Athènes faire un concert.
Ok.
Enfin, et je pense qu'on a eu du mal à réaliser sur le moment, sur l'instant, vraiment, que c'était dingue, en fait.
Ouais.
On a fait une petite tournée en Italie aussi qui était trop cool. Il y a plein de choses. Et puis surtout, on a quand même fait un des plus gros festivals du monde, c'est quand même Coachella.
Alors oui, sachez que ces femmes ont fait Coachella. Alors je sais pas, moi quand je vous ai connue, je crois que vous avez mis... tellement longtemps à sortir cette anecdote. Moi, j'aurais fait ça, j'aurais fait Coachella. Ce serait le premier truc.
J'ai fait Coachella.
Exactement. Ce serait le premier truc que je dirais en rencontrant les gens, même des
bonjour Anna, j'ai fait Coachella.
Des gens du secteur médical, je le dirais à tout le monde. Et vous avez une espèce de modestie qui est incroyable, mais on veut en savoir plus. Vous avez fait Coachella, mais comment ça se fait?
Comment ça se fait? On était signés aux États-Unis
déjà.
Oui, on était déjà signés.
Non, parce que ces femmes ont été signées aux États-Unis.
Voilà. Et on avait été programmées à Coachella. Il y avait toute une vague de Français.
Il y avait tous les headbangers qui étaient là.
Ouais, c'était
c'était quelle année?
2008, il me semble.
2007 ou 2008.
2007 ou 2008, je ne sais plus.
Elles ne savent même plus parce que tu vois, dans leur vie, il se passe tellement de choses.
Moi, je me souviens de Coachella où on avait. Moi, j'étais fan de Calvin Harris.
Ah, j'étais sûre que t'allais le
dire.
À
la base, Calvin Harris était pas beau, vraiment pas beau.
Oh,
il avait les cheveux décolorés, mais un peu noirs, trop mal faits. Ah. Et on avait mangé des burgers avec lui et je me suis dit, il est pas très beau.
T'étais déçue.
J'étais déçue.
Merde.
J'étais déçue. Et ouais, on a fait Coachella et
c'était bien.
C'était dingue. Hein.
C'était fou.
Vous avez eu peur.
En fait, c'était immense. Et le festival est tellement grand qu'on se déplace en petite voiturette de golf et tout. Ça, c'était trop bien.
Et Cathy avait oublié ses chaussures de scène dans notre trailer. Hein,
juste avant de monter sur scène, je me rends compte que j'ai oublié mes chaussures.
Et donc,
la caravane.
Elle est en tong.
Et donc, j'ai fait le concert. J'ai fait Coachella en tong.
Mais c'est tellement loin, tu peux pas retourner. Donc, on a fait le concert en tong.
Je pense que les gens se sont dit, c'est peut-être une mode. C'est peut-être une mode en France.
Et non, c'était fou. Et le lendemain, nous, on voulait trop profiter. Et on avait des interviews et un shooting. était là, non, on veut pas.
On va aller voir les concerts.
Oui. Donc bon,
on a quand même fait le shooting.
Ouais.
Et vous avez joué entre qui et qui?
Alors, non, alors, je sais plus. On va être clair, on a joué en premier. On avait Coachella,
c'est vrai,
mais en premier.
On avait Coachella, mais à 5h du matin, quand les micros étaient en test.
Non, je pense qu'il était 16h, un truc comme ça.
Ouais.
On a dû jouer à 16h.
C'est bien, 16h quand même.
Mais il y avait du monde.
Bien sûr qu'il y avait du monde.
Non, bien sûr, il y avait du monde. Enfin, le festival est immense et... Il y a tellement de monde, en fait, que même s'il n'y a pas encore beaucoup de...
Ouais, en fait, c'est
tous
quand
les
même
gens ne sont pas encore arrivés, je pense que ça remplissait quand même, ouais. Finalement.
Il y aurait moyen de retrouver une vidéo de vous à Coachella?
Je pense, alors...
Attention, je cherche.
Je ne suis pas sûre que j'ai vraiment envie qu'on voit mon
Cathy
style.
Cathy avait une robe violette à froufrou, voilà, alors, avec les tongs.
Avec les tongs.
Moi, je vous mets le son juste pour le kiff, les gars. Je vous laisserai aller voir sur YouTube cette vidéo magnifique de Cathy en tongs.
Tu l'as?
Quel bonheur.
I got it. At night?
Yeah. Ah, ça doit être Zazie fait de la bicyclette.
Ouais.
Je vois pas les tongs encore.
Attends, tu vas les voir.
Bah, elle est immense, la scène. Oh, ça envoie du gros rock.
Ah, la Louise, elle rock.
Ils t'ont coupé les tongs.
Ils sont sympas.
La vidéo vraiment s'arrête aux tongs. On a les tongs! C'est bon! Génial! Ah,
c'est presque plus des sandales, ça va.
Ouais, ça va. Tu t'en es bien sorti quand même.
Franchement, ça me fait rêver. Quand même, vous vous rendez pas compte parce que vous l'avez vécu et que pour vous, c'est presque normal. Mais...
Bah, je pense que là, pour le coup, là, on réalisait un peu qu'on vivait un truc
Coachella, c'était quand même
de fou. Ouais. Alors, ça n'avait pas la notoriété que ça a maintenant en France, mais c'est déjà un énorme festival quand même. Et c'est-à-dire que je pense que nous, quand on nous a annoncé qu'on faisait Coachella, on connaissait pas en fait vraiment le festival.
Vous vous êtes dit, on fait la fête de la choucroute à Strasbourg.
Oh, ouais, ça a l'air pas mal.
Et en fait, on est arrivé et on s'est rendu compte que c'était énorme.
Non, moi, la première fois que je me suis rendu compte qu'on faisait un gros concert, c'était la fête de l'UMA. Et c'était
trop cool, ça.
C'était quelques temps. Ça faisait même pas, je sais pas combien de temps ça faisait que j'étais dans le groupe, mais ça faisait vraiment pas longtemps. Et mes parents sont venus, et je crois que c'était leur premier concert où ils me voyaient, mais eux, ils pensaient que on faisait des petits concerts.
Ouais, vous étiez un petit groupe, quoi.
On était un petit groupe, c'était cool, tu vois. Et c'était blindé. Ouais. C'était la cata, parce qu'en plus, mes parents s'étaient mis en plein milieu. Mais sauf qu'il y avait des pogos, les gens. Et je voyais la tête de mes parents qui ne comprenaient rien du tout et qui étaient là, ah, c'est ça le groupe d'Anna?
Alors, pour connaître un petit peu tes parents, je vois très bien leur tête en pogo.
Je les voyais au milieu, j'étais là, oh le pogo, il est derrière. Oh mon Dieu, c'était drôle. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a du monde. Ouais. Mais Coachella, ouais, c'était un peu fou. Et surtout, ça a mené au fait que... Tout le concert, il y avait un mec hyper beau sur le côté de la scène. Voilà ce qu'on pense pendant qu'on joue à Coachella. Ah
oui.
On regarde le mec qui est en backstage sur le côté de la scène et tout le monde se dit waouh, le mec est trop stylé, il est trop beau.
Plus beau que Calvin Harris.
Plus beau que Calvin Harris, enfin. Et donc après, on sort de scène et puis nous, on voulait juste s'amuser. Il y avait que des restas. Et donc, il y avait ce mec très beau sur le côté de la scène. Et à la fin, on sort et puis notre tour manager nous dit « Ouais, il y a un mec qui arrête pas de m'appeler, il veut absolument vous rencontrer. » On était là « Bah non, on n'a pas envie, nous, on veut
voulait juste regarder les concerts.
Bah »« Ouais, on veut profiter. » Et il dit « Non, mais le mec me harcèle, blablabla. » Bon, et puis nous, on zappe. Et il y avait une fille de notre label qui est américain qui était là. Et elle dit « Mais c'est qui ce mec ?» Et notre tour manager dit « C'est Butch Walker. » Et elle nous a chopé, elle nous a dit « Vous vous asseyez là, vous bougez plus, c'est le plus gros producteur américain du moment. » Elle était là « Bon d'accord, génial. On veut bien rencontrer. » Et en fait, on voit Butch Walker arriver, c'était le mec trop beau qui était sur le côté de la scène et qui avait vu. On était là « Ok !» Tout de suite, on était trop contentes. Et puis, ça en est mené une belle collaboration.
Du coup, c'est lui qui a produit le deuxième album.
D'accord. Comme quoi, en fait, tout est lié.
On s'est toujours trop bien entendu. Ouais. En fait, directement, je pense qu'il y a eu un truc qui a marché entre nous. On s'est compris. Et quand il a fait le deuxième album, à la base, il était censé faire que 4 chansons. On était partis aux États-Unis enregistrer une sorte de paix, en fait.
Là, on parle de Beach, du coup.
Ouais, du deuxième album.
Deuxième album, ouais.
Et au final, on s'est tellement bien entendu. C'était tellement cool. Que lui-même en fait a appelé le mec de la maison de disque en disant est-ce qu'on peut terminer l'album ensemble en fait.
D'accord.
Parce qu'on
voulait monter dans le wagon.
Complètement, ouais.
Il voulait monter dans la Fiat Panda des plasticines vers le succès. Peut-on parler du fait que vous ayez joué dans la série Gossip Girl? Je vous entends tous crier derrière vos téléphones. J'espère que vous n'êtes pas au lit en train d'essayer de dormir avec ce podcast parce que du coup, c'est raté. Coup, c'est... sachez que moi, j'ai vu cet épisode, que je ne vous connaissais pas et que je connaissais le groupe. Et que je me suis dit, oh, c'est cool parce que c'est des Françaises et que c'est un groupe de meufs. Et à l'époque, je me souviens très bien, je me suis dit, trop stylé.
Trop bien.
Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment ça s'est passé?
Et c'est vrai que c'est marrant, mais c'est vraiment l'anecdote dont tout le monde nous parle, en fait. Même des années après, même des gens qui ont 20 ans maintenant, en fait, aiment Gossip Girl.
Et ah oui?
Ouais, et quand
ça
je regarde des
ça
gens,
repasse, ça repasse.
Ça repasse,
tout le
et je pense que finalement, ça n'a pas si mal vieilli que ça.
Pas du tout.
Et du coup, les gens, enfin, les jeunes, ouais, entre 18 et 20 ans, ils regardent encore Gossip Girl.
Ouais, c'est sur
et
Netflix en ce moment, en plus.
Et aussi, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on en parle encore et je trouve ça drôle, quoi, que ça suive un peu les générations.
Comment ça se passe un tournage de Gossip Girl alors?
C'est impressionnant, il y a 1000 figurants, il y a des gens qui courent dans tous les sens. Nous, on nous avait mis dans une petite pièce où on a attendu pendant je sais pas combien de temps. Alors là, on s'est rendu compte que quand t'es comédien, du coup, tu attends beaucoup, beaucoup.
Oui.
Et on ne le savait pas. Et on a découvert vraiment tout l'envers du décor, en fait, comment ça se passe pendant le tournage, que le moment où on enregistre du coup notre prise, donc on est un groupe. La scène, c'est on est un groupe pendant un bal, donc on joue notre chanson et il y a une scène pendant ce temps-là. Et en fait, pour pouvoir filmer cette scène, du coup, il n'y a pas de musique, donc
il n'y a pas un bruit.
Il n'y a pas un bruit.
Il faut qu'il y ait leur son à eux.
Ouais. Ouais. Et du coup, c'était drôle pour nous de
la batterie. Il y a tout est doublé.
Du air batterie.
Comme ça, ça ne fait aucun son. Les guitares sont pas branchées, les micros sont pas branchés. Les gens qui dansent, ils ont tous des petites talonnettes en dessous leur. Parce qu'il faut vraiment aucun bruit. Donc toi, t'essaies de t'enjailler en jouant bitch, mais en
c'est
fait,
génial.
En fait, c'est muet.
C'est du air, du air chanson et
du air, chanson,
du air danse pour tout le monde.
Ouais.
Et les gens, ils arrivaient quand même à danser avec leur petite patinette et tout.
Ouais,
alors, en fait, au début, ils laissent, je crois, 10 secondes de la chanson pour que les gens aient le rythme. Et une fois qu'ils ont le rythme, du coup, ils coupent la chanson.
Et quand tu es comme ça.
Il n'y a plus rien. Et ils continuent, du coup, avec leurs petits mouvements à
c'est
danser.
C'est drôle.
Je vous invite à aller chercher si vous voulez vous remémorer. Il me semble que c'est dans la saison 3, épisode 9.
Pas mal.
Exactement. I have to be perfect, and that means having the perfect escort. I told you who I wanted.
We tried.
We'll try harder. I'm a bitch.
Est-ce que j'ai bien révisé ou pas?
Pas mal. Et la petite anecdote, c'est que sur ce genre de gros tournage, t'as jamais une journée précise où tu vas tourner. Donc, ils nous ont, notre label nous avait envoyé à New York 3 semaines avant.
Ah ouais?
Juste pour être là le jour où on allait nous appeler. Parce que
pour
c'était
une scène.
C'était du jour au lendemain, c'était juste pour une scène.
D'accord.
Donc, on était vraiment. Là, on avait quand même vraiment la belle vie. Voilà, on était dans des très beaux hôtels où on arrivait, les mecs nous disaient « Est-ce que vous voulez un petit poisson rouge dans la chambre ?» Alors, dans Asso, et tous les matins, il y avait un mec qui arrivait, qui toquait à ta porte et qui venait...
te demander si tu voulais un poisson.
Ben non, nourrir ton poisson rouge.
Ah
quoi.
Non
voilà. Et on avait tellement de temps que finalement, on nous a envoyé à Los Angeles pour enregistrer une chanson avec Butch Walker encore, notre producteur. Et
donc
on a...
sur le temps où
ouais, parce
à
qu'on
tout
avait
moment
que
on pouvait vous appeler quoi.
Voilà, qu'on a été à Los Angeles, on a fait cette chanson qui est devenue en plus le thème de la
le
générique de la série Mère et Fille.
Alors
donc, voilà.
J'ai découvert ça sur Disney Channel.
Voilà, qui passe
incroyable.
Tout le temps.
Donc, voilà, rien ne vous arrête. Hein,
c'était vraiment la chanson, on l'a fait parce que... voilà, on avait du temps, c'était cool, on avait un studio. Et...
on l'a pas fait pour que ça soit le générique de la...
ah ouais, non, juste ça s'est retrouvé comme ça.
Non mais vous êtes en roue libre en fait. Qu'est-ce qui ne marche pas en fait
Bah là c'était une bonne période. Là je pense qu'on s'en rendait pas compte encore, mais voilà c'est vrai qu'on
s'est jamais rendu compte.
On avait la belle vie, on dormait dans des hôtels incroyables, on rencontrait des gens complètement fous, on faisait voilà, on se rendait pas compte de toute la grosse machine qu'il y avait derrière nous. Je pense aussi parce que pour finir dans un épisode de Gossip Girl, il voulait finir coacher là. Voilà, mais non, on se rendait pas trop compte parce que nous, on était 4 meilleurs amis qui faisaient le tour du monde et qui faisaient des concerts. Et voilà, c'était juste c'était
au fond,
juste
vous
cool.
étiez toujours les mêmes.
Bah oui, finalement. Quand on a enregistré le deuxième album et qu'on est arrivé à Malibu, c'est là où on a enregistré une partie, en tout cas, de notre deuxième album, c'était la folie. C'était une espèce d'énorme maison où, en fait, il y avait le studio à l'intérieur et nous, on dormait là-bas. Et en fait, c'était là où on enregistrait. Cathy, elle avait une petite cabine. Et en fait, il n'y avait que des vitres derrière et ça donnait sur l'océan Pacifique.
Ouais, c'était incroyable.
C'était la folie.
La meilleure vue pour enregistrer.
J'avais un album que j'aimais trop d'un groupe qui s'appelait Incubus. Et l'album s'appelait Morning View. Et c'était une photo. En fait, Morning View, c'est une rue à Malibu et qui donne sur le Pacifique avec cette petite montagne de Malibu. Et en fait, moi, j'arrive là et j'ouvre les volets de ma fenêtre et c'est ça, quoi.
C'était la pochette.
Ouais, c'est la folie. Ouais, c'était... Donc, je me suis fait tatouer Morning View le lendemain. Voilà. Bah ouais, cliché. Bon, hein.
On pense à tous ceux qui enregistrent des albums dans des studios, voilà, sur les parkings à Villepinte.
Ah bah ça, on l'a fait aussi.
On l'a fait et on a fait des très bonnes chansons sur des...
En fait, Malibu, c'est le côté glamour de cet album. Et mais après... cet album a été enregistré aussi sur un parking.
Ouais.
Ah, bon, c'est beau, ça.
Dans la vallée.
Voilà.
Est-ce que vous avez fait des soirées un peu folles ?
Ah, en fait, le label sur lequel on avait signé aux États-Unis, c'était Marvin Scott Jarrett qui l'avait créé, qui avait aussi créé le magazine Nylon. Mm-hmm. Et du coup, son label s'appelait Nylon Records.
Okay.
Et du coup, ce mec-là, en fait, faisait des soirées pour son magazine de temps en temps, et il nous avait invité une fois à les mixer. Donc, ça nous est arrivé de mixer pour des soirées. Où il y avait par exemple Leighton Meester qui venait après, donc qui est l'actrice de...
Votre pote déjà à la base, hein.
Voilà. Qui était venue à cette soirée. Et puis il y avait d'autres gens aussi de 90-210. Voilà, c'était un peu l'univers Hollywood.
Trop bien!
Des soirées, on était plutôt sages quand même. Nous, on aimait bien aller boire des coups avec nos copains. On n'était pas trop. Glamour.
Quand on allait à des soirées, on aimait bien du coup mixer ou enfin voilà, qu'il y a un but.
Ouais. Pas être juste.
Pour des coups. Ouais, exactement. On préférait plus être avec nos copains, quoi.
Et est-ce que vous êtes allé à des soirées un peu où vous rentrez après en France en disant que c'était lunaire ?
Bah, il y a eu la. Mais toi, tu t'en souviens pas. Alors peut-être que t'étais peut-être pas là, je sais pas, on en a parlé dans la fois.
T'en souviens pas parce que t'étais pas là.
T'étais bourré, je sais pas. Non, après le tournage de Gossip Girl, on avait été avec Chuck Bass dans une espèce de soirée où les meufs étaient dans des cages et elles dansaient.
Ah, genre un truc de burlesque.
Un truc un peu burlesque, voilà. Mais tu vois, si t'étais là, tu t'en souviendrais. Ouais.
On a eu la chance, du coup, avec ce label, de pouvoir faire une énorme tournée, en fait, après, qui s'appelait le Nylon Summer Tour.
Ah oui, il y avait ça aussi.
Et en fait,
et celle-ci aussi.
Pendant tout un mois, on est parti avec trois autres groupes.
Et c'est qui les sillonner, autres groupes ?
C'était un artiste anglais qui s'appelait Patrick Wolf. Il y avait The Living Things, qui est un groupe américain de
mecs un peu à la Rolling Stones,
ouais.
Un petit peu.
Et il y avait Jaguar Love.
Ouais.
Alors, je ne sais pas si ces groupes existent encore.
On
regardera.
Et donc, du coup, on a sillonné toutes les routes des États-Unis en bus, comme ça, pendant un mois. Alors, c'était quand même assez incroyable.
Quoi.
Ça, c'était un peu notre but ultime, c'était de partir dans un bus de tournée. C'est-à-dire que nous, en France...
Nous, si on fait tout ça, c'est pour monter dans le bus, ok?
C'est un peu ça. Non, mais en France,
ça paraît débile, peut-être, mais...
Mais pas du tout, non, mais...
Que pour nous, être dans un bus de tournée, c'était le rêve, c'était quoi. C'est ce qu'on imaginait d'un énorme groupe qui part en tournée, quoi.
Star 80 ont aussi un bus.
Oui, c'est vrai.
Ben, ils ont vraiment de la chance.
Et notre label avait fait... ça, c'était vraiment... Et kitsch et très drôle et super. Ils avaient fait imprimer nos têtes sur le tourbus.
Oh non,
Vous
avez des photos de ça?
Bien sûr,
oui, je pense qu'il y a des photos, des vidéos.
Alors, je vais les mettre sur Twitter. On mettra un hashtag le tourbus magique.
Le tourbus magique, c'est exactement
hashtag
ça.
Le tourbus magique et vous pourrez retrouver cette photo cachée.
Ah, c'était cool. Ouais, c'était un peu la folie, hein. Franchement.
Et donc là, vous avez fait des grosses salles en France, en fait. Bercy.
Ouais. C'est vrai qu'on
voilà.
On a fait
Bercy.
On a l'air un peu blasé, mais on l'est pas. Hein. C'est juste qu'on se rend pas compte.
Bercy
vraiment.
2, le centre commercial.
À Charenton.
On a fait Bercy en première partie du groupe de Jared Leto, qui s'appelle 30 Seconds to Mars.
Oh là là. J'ai entendu parler de cette date.
Ça a été une épreuve pour nous.
C'était
l'épreuve.
Ça a été
très très compliqué. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais eu un accueil comme ça. Pas dans le bon sens du terme.
Mais
accueil
horrible. En fait, on connaissait Jared Leto et on s'était très bien entendus. Voilà, on était très contentes et il venait de passage à Paris pour ce concert. Il nous avait dit, venez faire notre première partie.
Vous l'aviez rencontré à Los Angeles.
Oui.
Que vous aviez enregistré.
Exactement, parce que c'est un ami de
des gens de notre label.
C'est un petit monde, quoi.
Voilà.
Ok.
Et donc il nous a invités à faire Bercy, ce qui est quand même la folie. Donc on avait invité en plus tous nos copains, nos parents, enfin bref. Et on est arrivé, c'était la cata.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait on a passé notre concert avec les trois premiers rangs qui nous tournaient le dos.
Bah, c'était surtout des filles, j'imagine.
Ou sur leur portable, ouais, parce que oui,
très jalouse.
Je pense qu'il y avait une petite jalousie du fait qu'on était sur scène, sur la même scène que leur idole.
Ah ouais. Et, ouais.
Et ça, c'est pas passé.
Non, ça,
c'est
pas, oh là là,
on ne nous a pas laissé la chance. Hein. Dès le premier morceau, ah, elles étaient dedans.
Ah, c'était foutu.
Ah, moi, j'ai entendu qu'elles étaient dedans et qu'elles faisaient des doigts d'honneur.
Ah ouais, c'est possible.
Ah, c'est possible.
Ouais.
Oh, c'est possible, hein, franchement. Très possible. Hein. Je pense qu'il y avait tout le combo.
Ça me paraît terriblement cruel.
Tu sais, ils ont une fanbase tellement.
Oui.
Je sais pas comment dire. Alors, c'était pas drôle, mais pour moi, c'était pas non plus un drame. Je sais pas comment dire.
C'était limite drôle, en fait. Mais
on a eu l'habitude, dans le passé, avec le groupe, d'avoir quand même quelques critiques, tout ça. Donc je pense qu'on s'était un peu forgé une petite carapace.
Ouais.
Et je pense que quand il y avait des événements comme ça, du coup, ça passait un peu plus facilement.
Mmh. Oui, on prenait pas personnellement. Bercy, de toute façon.
Oui, et puis c'est Bercy.
Et on a fait Bercy.
Ouais, non, c'est on a fait Bercy.
Je pense que c'est le moment d'appeler Louise.
Ah ouais,
Louise. Alors, elle n'est pas avec nous malheureusement, mais on a le FaceTime de la mort.
Voilà.
Louise, on...
Ah
non, pas du tout.
Ah non.
FaceTime indisponible. Ok, ben bah on essaiera de la rappeler. Elle va certainement me rappeler.
Oui.
Auquel cas, bien sûr, on ne décrochera pas. parce qu'on est très rancunière. C'est faux.
Ah, ben voilà, Louise.
Quelle sonnerie.
Est-ce que... Tu nous entends? Alors, attends. Alors, je vous présente Louise.
Bonjour Louise. Hein.
Bonjour Louise.
Louise, tu nous entends?
Tu nous entends ou pas?
Oui, j'entends tout le monde.
D'accord.
Est-ce que ton réseau internet serait pas...
Nul?
À bas débit.
Je voulais savoir un petit peu quels étaient les concerts que tu avais préféré faire. Parce que là, on a parlé de Coachella, on a parlé de Bercy, on a quand même parlé de trucs foufou, quoi.
Bercy, c'était notre préféré?
Oui, mais non.
Non.
On n'a pas dit que c'était notre préféré.
Justement.
Bercy, c'est les doigts d'honneur, c'était vos préférés?
Non, c'était pas ça.
C'était un de mes voyages préférés. Je ne sais pas si au concert, je crois qu'il était très très chaud. Biarritz, je me souviens sur la tournée d'été du... Deuxième album,
ouais.
C'était pour le...
Biarritz, c'était la folie.
Biarritz. C'est-à-dire que les meufs, elles ont joué dans le monde entier, mais même en Chine. Et si tu demandes à Louise son concert préféré, c'est Biarritz.
Bah,
j'adore ça.
Non, mais c'est vrai que c'était cool, c'était pour le... comment ça s'appelait?
Le Roxy... Roxy quoi?
Le Roxy Pro.
Ouais, Roxy Pro, ouais. C'était pour
le championnat de surf.
Ouais, exactement. Okay. Et du coup, on jouait sur la plage, en fait, à Biarritz. Il y a une sorte de arène devant la plage, là. On avait joué là et c'était blindé et c'était la folie, c'était trop marrant quoi.
La folie. Moi j'avais un concert qui était trop bien, mais en fait parce que c'était aussi notre plus gros concert, je pense, c'était au Paléo Festival en Suisse. Je sais pas combien de personnes il y avait, mais je pense que c'était un de nos plus gros concerts.
Dans les anecdotes de concerts aussi, je pense qu'on en a oublié. On a eu la chance de faire partie d'Iggy Pop à Blois. Et donc nous, on est hyper fans des Stooges, de Iggy Pop. Donc on se dit, ah super, on va faire la première partie d'Iggy Pop. Mais bon, on se dit, clairement, on va pas le rencontrer. C'est une immense star, c'est impossible, c'est une icône. Et sauf qu'on a eu la surprise de voir que pendant notre concert, en fait, il est venu sur le côté. Et il est resté, je pense, au moins deux chansons. Et on nous a dit qu'apparemment, c'était rarissime qu'il reste plus de 30 secondes pour voir les premières parties. Donc, oui.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
T'es super contente et donc on va dans les loges après le concert, on avait fait un bon concert, c'est trop cool. Et là, qui débarque en peignoir avec un verre de vin? Bah, c'est Iggy Pop qui rentre dans notre loge pour nous féliciter. Il commence à nous parler, il a été hyper bienveillant. Enfin, c'était une super rencontre en fait. Et
génial.
De voir que derrière l'artiste qu'on adule, bah, il y a quelqu'un de bien en fait. Et de
quelqu'un en peignoir du coup.
Et en peignoir, exactement, et avec un verre de vin. Mais il a été très très cool, c'est-à-dire que... il nous a réinvités. Après, il avait fait un concert, je crois que c'était à Bercy. Et il nous avait invités après au concert. Une deuxième fois encore, il nous avait réinvités à un concert parce qu'il se souvenait de nous, en fait, quand il revenait à Paris.
C'est la fête de l'humain, il me semble.
Ah.
Heureusement que Louise est là pour rectifier les
choses. Parce qu'elle a réussi, elle aussi. dans le genre rencontre un peu bizarre comme ça, il y a, quand on a fait le clip de Barcelona, on l'a fait à Los Angeles. Et c'était le dernier jour où le lendemain on rentre à Paris après. Et donc Dave Stewart, qui est le mec, le binôme d'Eurythmics.
D'accord.
Voilà. Nous, on traînait avec ses fils et avec lui aussi, on faisait un peu de musique. On avait fait. Voilà.
Et il devait. En fait, il est photographe aussi.
Ouais, on avait fait des shootings avec lui.
Des photos.
Il nous prêtait des guitares. Les guitares qu'il y a dans le clip de Barcelona, c'est les guitares de Dave Stewart. Donc avant de faire le clip, on est passé chez lui dans son studio récupérer les guitares et il y avait un mec en jogging avec un vieux t-shirt qui était de dos et qui était en train de jouer du piano et donc on prend les guitares, on dit bonjour au mec et en fait on se rend compte que c'est Mick Jagger qui est là.
Il arrive et il nous serre la main et là on serre la main.
Mon Dieu.
À Mick Jagger.
Ouais, c'était la folie.
Et c'était dingue. Non,
ouais, c'était dingue. Surtout qu'il était en jogging. Enfin, tu vois, quand tu dis tu vas rencontrer Mick Jagger, c'est genre tu vois l'icône. Enfin, et le mec était en bas de survêtement, tu sais. C'était fou.
Et ça a duré une seule seconde, ouais, hein, parce qu'après on est reparti direct, ouais. On a fermé la porte, on était comme des. Comme des débiles, quoi.
C'est pas possible.
C'est génial comme anecdote.
Ouais. C'est dingue.
Vous avez vu Mick Jagger.
Ouais. Et on lui a serré la main.
Ah non, c'était cool.
Oh là là, et il a serré la main.
Il a serré la main.
De tellement de gens.
Plein de gens.
Vous êtes à une poignée de main de.
Ouais, c'est ça.
Du monde entier.
Ouais.
Exactement.
Après, il y a eu des concerts un peu bizarres. On a joué sur un paquebot au Brésil.
Pourquoi ça sonne mal déjà à ce début d'histoire?
Et puis j'ai failli mourir aussi.
Ouais, Cathy s'est fait électrocuter. Sur scène, faut jamais, avec les fils électriques qui passent, il y a du courant, faut jamais jouer pieds nus.
Non, mais comme Cathy joue en tongs.
Parce qu'en fait, on était partis de Sao Paulo la veille. Sur un énorme paquebot. En fait, il y avait un festival sur le paquebot. Okay. Déjà, le truc trop cool.
Trop
festival
bien.
Sur un paquebot. Et donc, on va se coucher. Le lendemain, on se réveille. Et en fait, on était dans la baie de Rio. On était entourés de petites îles paradisiaques. Et de notre scène, où on faisait nos balances l'après-midi, en fait, on avait vu sur ça.
C'était fou.
Et donc, c'était, je pense, la plus belle balance de ma vie. niveau vue. Je fais mon concert et puis à un moment je décide de poser mon genou par terre et là je me reçois une énorme décharge électrique dans tout le corps. Je me retourne vers Anna, j'étais en pleurs, les larmes ont coulé toutes seules.
Moi j'étais là, ok, me fait trop bizarre.
Et ça avait les cheveux comme ça.
Presque. Sauf que donc je raconte ça, mon ingé son il s'est pas rendu compte parce que j'ai essayé de continuer le concert comme je pouvais. Et juste après le concert, je viens de lui dire que j'ai eu ce petit problème. Il me dit, mais t'es folle, t'aurais dû me dire, on aurait dû arrêter, t'aurais pu mourir en fait, tout simplement. Il me dit, tu sais, il y en a plus d'un qui est mort comme ça. Je fais, bon, je le saurais. Sur un paquebot au Brésil.
C'est marrant parce que j'ai du mal à avoir de véritables souvenirs sur scène.
Je suis amnésique. j'ai complètement occulté toute cette partie de ma vie.
De rien.
Pour moi, c'était quand même des gros moments d'adrénaline, de stress, de joie. Enfin, ça passait tellement vite la plupart du temps. Mais j'ai plus des souvenirs, comme on avait quand même la chance de voyager avec mes meilleures copines, des voyages, non pas de ce qui se passe sur scène, mais de ce qui se fait tout autour.
Tout ce qui va autour.
On avait la chance d'être vraiment copines, en fait.
Ouais.
Ouais,
qui faisait que quand on partait en tournée en concert, c'était un vrai, voyage,
quoi.
En fait.
Ouais.
C'était des vacances, une colonie de vacances, en fait.
Et puis, je pense que ça te rassure aussi, j'imagine, quand
t'es pas tout seul, quoi.
Ouais, t'es trois. Ouais. Et
quatre aussi, à une époque.
Ou quatre. Et voilà, c'est tes copines, c'est ton groupe, vous faites bloc et c'est parti, quoi. Ouais.
Complètement.
Après, c'est vrai que sur scène, t'es tellement concentré. Tu veux tellement que ça se passe bien, ça passe très vite. Tu te rends compte de rien. Le concert commence, c'est déjà la fin. Enfin, ouais, t'es un peu stressé. Si t'as pas bien fait tes petits rituels avant le concert, tu te dis oh là là, ça va mal se passer.
Vous aviez des petits tocs d'avant concert?
Ouais.
Il changeait à chaque tournée,
je crois. Tournée, ouais.
Et parfois on dansait, parfois on avait des cris.
Ah oui, il y avait ça. On fumait une clope.
À un moment, il y avait la cigarette de l'amitié.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est vrai.
À l'époque où on fumait toutes, c'est drôle. Hein.
C'est bien révolu toute cette
histoire. Ouais, on dansait, il n'y avait pas un truc de chorégraphie.
Si, on avait une choré un moment, je crois sur Britney Spears, un truc comme
ça. Ah, c'est possible, ouais.
Ouais.
Ah oui.
Et puis, ouais, le dernier, on chantait...
Un câlin.
Bien sûr qu'on faisait le câlin, ouais. Bien sûr.
Je me souviens d'avoir eu une énergie qui était vraiment cool et où tout s'est bien déroulé. Je crois qu'il y avait Biarritz, il y avait une énergie dingue. La Boule Noire aussi, je crois, pour la sortie du deuxième album, où c'était la première fois qu'on faisait sur scène.
À Paris, ouais.
C'était quand même un gros tournant.
La cigale, c'était dingue, en fait.
Mais c'est des salles mythiques aussi.
C'était notre plus gros concert parisien, je pense, je veux dire un autre nom. C'était le dernier concert de la tournée avec les Starliners.
Ah, c'était la folie.
Ouais, c'était dingue, en fait. Il y avait une énergie. Moi, je sais que j'ai pleuré sur scène, en fait.
Oh. Ah, non, oui, mais c'est vrai.
Ouais, ouais. C'est vrai, c'est hyper, hyper touchant, en fait. Puis on ressent tellement de... Enfin, on reçoit de l'énergie, en fait, complètement, quand on est sur scène. Et quand on reçoit une certaine énergie, je sais pas, parfois, ça... Ouais. Ça
il y avait toutes nos, il y avait nos familles, il y avait tous nos
demander,
amis.
J'allais demander, est-ce que vos familles venaient?
Ouais, bien sûr, ils venaient tout le temps.
Il y avait... Quand c'était à Paris ou pas, à côté de Paris, nos familles, ils venaient tout le temps, ouais.
Et puis il y avait les fans qu'on connaissait, parce qu'il y a plein de fans qu'on voyait tout le temps et qui étaient toujours là, et de voir tous ces gens-là dans une salle qui est absolument magnifique, et tout c'est se dingue. Passe bien, et t'as les Starliners avec nous, et c'est de la famille, parce que voilà, même toute notre équipe technique, c'était devenu, voilà, c'est eux qui c'est nous réveillaient le matin quand on se réveillait pas en tournée, c'est eux qui faisaient nos emplois du temps, c'est eux qui étaient tout le temps avec nous, c'était...
On a gardé presque la même équipe, en fait, du début jusqu'à la fin.
Et est-ce que vous avez déjà fait des refusé des trucs parce que ça collait pas à vos valeurs et à ce que vous aviez envie de faire?
Je pense que j'ai proposé beaucoup de choses
improbables. Non, est-ce qu'on a des
caprices? Accepter tout.
Des caprices, je crois pas.
On a fait une super pub Caprice des Dieux.
Non, on nous avait proposé Gillette. Non, Vénus.
Ah oui,
les
c'est
rasoirs
vrai.
Vénus. Et la pub, on devait être en studio. Et donc avec Louise, on devait être en train de commencer à jouer. Et on se dit, mais elle est où Cathy? Elle est tout en retard. Et Cathy est en train de se raser avec un rasoir Vénus.
Et ça, on a dit non.
Ouais. Ouais, je pense qu'on l'a envisagé peut-être une seconde en se disant, bon voilà, c'est de l'argent, mais en fait, non.
Mais elle est où Cathy?
Elle
se rase.
Et ouais, elle devait être en train de se raser.
Elle se rase la moustache.
Ça, on l'a pas fait.
C'est dommage.
Dommage, hein.
Mais
ça manque à votre carrière, ça manque à votre Wikipédia.
C'est la pub qui nous manque.
Et vous avez fait des pubs d'ailleurs, justement?
On avait fait une collaboration à l'époque avec une marque. On avait fait une collection capsule.
Ouais.
Et donc ça c'était trop cool parce que du coup on a vraiment.
On peut dire la marque si tu veux.
C'est Jennifer.
Bah trop cool. Et là en ce moment ils explosent.
On avait failli pas le faire.
On a failli pas le faire.
Jennifer c'est pas nous.
C'était pas forcément notre style. Et en fait on a été quand même assez libre de faire, de choisir finalement les modèles qu'on voulait. On avait pour chacune vraiment une personnalité où ça révélait vraiment ce qu'on pouvait mettre.
Un look pour chacune. Ouais.
Et c'était une expérience trop sympa,
c'était
en fait,
bien.
De faire ça.
Vraiment, l'équipe était bien.
Ouais, on avait vraiment bien aimé.
Moi, je trouve que c'était une expérience très sympa, ça avait bien marché.
Mais il y avait vos têtes dans le métro aussi.
Ah oui. C'est vrai qu'on était en immense dans le métro. Et on était aussi dans les magasins. Alors ça, j'ai des potes qui m'ont raconté que dans leur magasin, qui m'avaient dit qu'ils m'avaient vu dans le magasin de Jennifer en grandeur nature.
Ça a marqué
les esprits, apparemment.
En 4x3 dans le métro. Et ma mère avait réussi à voir avec la RATP l'affiche.
Mais non.
Et en fait, pendant...
Mais si, elle en fait quoi, ta mère?
Bah, tu sais pas, dans le garage de mes parents, il y avait...
Ma tête.
Bah, c'était trop grand, 4x3. Ah. Ils avaient mis que moi. Désolé, Cathy. Ils ont choisi. Ils t'aiment, mais non, ils ont choisi quand même.
Ah, bah, sympa.
Et il y avait ma grosse tête. Et quand j'ai ramené mon mec et qu'il a vu ça, il s'est dit, ah ouais, c'est quand
même. Les parents sont fans, ouais. Donc.
Et on a fait aussi un album reprise en collaboration avec
Paco Rabanne.
Ah oui, alors d'ailleurs, pour la petite anecdote, Anna et Hugo, donc mon cher et tendre, étaient colocs il y a encore quelques mois.
Ah oui.
La première fois que je suis arrivée dans cette maison, qui est aujourd'hui ma maison aussi.
Très bizarre.
En fait, je suis arrivée dans les toilettes. Et là, je m'assois et je tourne mon regard vers la gauche. Et là, je vois un disque de platine si je ne m'abuse,
un double disque de platine
des Plasticines. Voilà. Pour la collab avec Paco Rabanne. Et je trouvais ça genre tellement stylé. J'ai rien osé dire la première fois que je suis sortie des toilettes. La deuxième ou troisième fois, j'ai explosé. J'ai dit, franchement, c'est trop stylé. Ouais. Sache aujourd'hui, Louise, qu'il y a une photo de mon chien à la place de ce disque. Ça manque parce qu'Anna est repartie avec. Et là, il y a une photo de Joe Cocker, ce qui est moins cool.
C'est peut-être plus mignon. Mon collab officiel, un peu, voilà, grosse campagne.
C'est déjà
si,
pas
on
mal.
Avait fait, à un moment, on faisait pas mal ça avec Yves Saint Laurent. On avait fait
Ouais, on faisait la musique.
La musique des pubs à Yves Saint Laurent.
Trop génial. Pour la mini anecdote nulle, dans le même style que vous, moi, ma première campagne, c'était Eau Précieuse. Et il y avait des grosses PLV dans les pharmacies avec ma tête. Et ma mère était allée récupérer l'énorme PLV en carton à la pharmacie. Elle me l'avait fait envoyer à Paris. Et ce qui est trop triste, c'est que je l'ai jeté parce que je supportais pas m'avoir en grand dans mon appartement. Bizarre,
franchement, je comprends. Moi aussi, j'aurais pas supporté de m'avoir.
C'était chez mes parents, donc ça va. Mais... Ouais.
Voilà, et je me voyais pas lui renvoyer l'énorme carton. du coup, elle l'a jamais su.
Elle le saura. Désolé, maman.
Si tu écoutes ce podcast, maman, je suis désolée. Oui, c'est très compliqué. Je pense que ça doit faire bizarre de se voir dans le métro déjà.
Toute proportionnalité, on était exposés, mais on n'était pas non plus. Les gens nous connaissaient dans la rue. Enfin, il n'y avait pas encore aussi tous les réseaux sociaux.
Oui, c'est vrai.
Il y a presque 15 ans maintenant. Et on ne s'exposait pas de la même manière. On a toujours été assez pudique, je pense, aussi avec les filles. Et même tout à l'heure, on parlait de la publicité. C'était tout neuf, c'était assez récent. Et on n'avait pas l'habitude de s'exposer au quotidien de la façon dont on peut le faire aujourd'hui. Les musiciens, les artistes, les acteurs, les influenceurs.
C'est vrai qu'on a tendance à tout montrer maintenant. Et comme dit Louise, Instagram, on a commencé nous Instagram, c'était notre troisième album, je crois. Du deuxième. Ouais. Mais
on n'était pas assez bonne élève.
Ouais, on n'était pas à fond là-dessus, quoi, c'est vrai.
On a fait 2-3 closers, 2-3 publics.
Encore même.
Et surtout, on nous reconnaissait quand on était les quatre.
Quand on était ensemble. Ouais.
Individuel, il y avait quand même un esprit groupe qui disait que les gens nous connaissaient en tant que Cathy, mais moins, peut-être plus Cathy, mais moins, justement, individuellement.
Qu'est-ce qu'on fait une fois que tous ces concerts sont passés, que les albums ont été enregistrés? Est-ce qu'il y a toujours la même envie et comment tout ça a évolué finalement?
Je pense qu'il y a eu une petite coupure quand on a commencé à faire des répètes assis à l'ordinateur. Voilà, je pense que c'est ça. Après, en fait, c'était nous.
On avait envie d'avoir des nouveaux sons.
On avait envie.
Et en fait, cette approche, de la musique, les sons qu'on voulait mettre, c'était un peu plus.
C'était plus trop nous.
On avait moins organique. Mais... C'était du coup,
vous étiez rock à marche.
Voilà. Ouais. Et c'est vrai que c'était un peu.
On est passé un peu plus pop, mais
nous, je trouve ça très cool.
Mais c'est juste que du coup, je pense qu'on a perdu la dynamique qu'on avait ensemble dans le fait de plus vraiment jouer en répète ensemble. Ouais. Quoi.
D'accord.
On faisait des morceaux, mais c'est à l'époque où Louise est partie vivre dans le sud aussi. Mais pour nous, ça ne nous posait pas de problème vu que c'est l'ordi, tu peux faire partout. Ouais. Donc ça, c'était quand on a commencé à écrire le quatrième album. Mm-hmm. Et je sais pas, je pense que c'est là où il y a eu une coupure. Je pense qu'on était moins...
Je pense on arrive à un âge où ça faisait plus de 10 ans qu'on faisait ça.
Ouais.
C'était trop cool. On a vécu des expériences.
La meilleure vie qu'on ait pu.
Incroyable, ouais. C'était dingue, mais je pense qu'il y a un moment où on n'évolue pas tous de la même manière.
Bien sûr.
Nous, on a grandi, en fait, avec ce mode de vie, avec la musique. Mais je pense qu'il y a un moment où chacun aussi a peut-être des envies différentes, parce qu'on a commencé très, très jeune, en fait, quand même. On avait 17 ans. Donc, à 17 ans, on a été un peu mis dans ce truc, sans forcément se dire, on va faire ça pendant 10 ans. Et je pense que c'est le cas de Louise. Je pense qu'elle ne s'était pas forcément projetée aussi loin. Et qu'il y a un moment, ou même Anna, un moment, où vous vous êtes dit toutes les deux que vous aviez envie de faire autre chose, tout simplement.
Oui, tu te laisses porter, en fait, pendant tant que les opportunités arrivent.
Et puis, à un moment, en fait, tu te dis, peut-être que j'ai envie de faire autre chose aussi.
C'est la vie
moi,
aussi.
Je parle à votre place. Mais...
Non, mais il y avait un truc aussi, je pense que c'est à l'époque où on faisait beaucoup de...
Des synchros.
On faisait des synchros, ce qui était très cool. On faisait des synchros, on faisait des musiques de pub. Mais ça devenait un peu notre boulot. Et ça, Je pense que c'était... Ouais. Voilà, on avait pas envie. On a toujours fait de la musique. On s'est jamais pris la tête. On n'a jamais eu de deadline ou ce genre de truc. On n'a jamais vu ça. Alors après, on bossait, hein, parce que t'arrives pas là où on en a, où
on
a
on
été.
On a quand même fait 3 albums. Et
voilà,
tout,
donc, on répétait, on faisait beaucoup de choses. Mais il y avait toujours ce truc de passion, quoi, qui était là. Et ça, je pense que ça s'est un peu estompé à la fin. Et même si aujourd'hui, on est toujours complètement passionnés et on adore encore jouer ou même écouter de la musique, mais il y avait un truc dans les plasticines où c'était devenu vraiment du boulot, où on faisait des chansons plus pour nous, mais pour notre label. Mmh.
Ouais, bien pour sûr. Le groupe, ouais, et puis pour je pense qu'on faisait des chansons aussi pour le groupe, et je pense qu'on s'est retrouvé plus, alors pas du tout d'un point de vue créatif ni amical, il n'y a pas eu on le faisait parce qu'il fallait le faire.
Mmh.
Je pense.
Ouais.
Parce qu'il fallait continuer,
parce qu'il fallait ouais.
faire un album. Et à un moment, voilà, on a eu toute cette trajectoire commune qui était plasticine. Et je pense aussi qu'on a aussi des profils qui sont assez différents les uns des autres.
Mmh. Et c'est ça qui est cool aussi en même temps.
Ou Anaïs. Moi, je ne me sentais pas musicienne comme elle se sentait musicienne. Donc j'avais toujours eu en tête qu'un jour, je reprendrais mes études et que je prendrais un chemin peut-être un peu plus conventionnel.
Et avant de parler du coup de l'arrêt du groupe, j'avais très à cœur de parler un petit peu aussi de la place de la femme et de comment vous l'avez vécu, vous, en tant que groupe de rock de meufs, dans l'industrie de la musique. En tout cas, comment votre parcours, vous l'avez vécu, et si vous aviez été bien entourée. Je voulais savoir un petit peu comment ça s'était passé pour vous.
Alors, je pense que c'est important, en effet, de parler, que les femmes puissent parler maintenant un peu plus librement dans tous les domaines, quand ça se passe mal. Mais je pense aussi qu'il faut en parler quand ça se passe bien.
Ah, je suis bien d'accord.
Et voilà, pour nous, on n'a jamais eu de soucis. Et au contraire, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous ont aidés dans notre carrière, comme notre manager quand on l'a rencontré. Enfin, il y a eu beaucoup de gens, Marvin Scott Jarrett, qui nous a fait rencontrer Butch Walker. Enfin voilà, il y a beaucoup d'hommes en fait qui nous ont aidés dans notre carrière. Et c'est vrai que nous, on n'a jamais été confrontés à un problème de ce genre-là dans le milieu de la musique. Alors je pense qu'on est très chanceuse de pas avoir eu de soucis, mais
c'est malheureux
voilà,
on a
fait les bonnes rencontres et voilà, et ça s'est bien passé.
Moi, le seul bémol que j'aurais à ajouter à ça, c'est dire qu'on a toujours été très bien entourés, les professionnels, que ce soit au niveau des labels, de nos producteurs, de nos équipes techniques ou artistiques. On n'a jamais eu aucun problème là-dessus. Par contre, j'ai l'impression qu'en tant que groupe de filles, on avait un peu une présomption de faux, de superficialité.
Oui, il y a ça.
Ça posait des questions qu'on n'aurait jamais posées.
Oui. Mais ça venait de la part des hommes et des femmes aussi. Voilà,
oui.
C'était l'idée en général d'un groupe de filles où, en effet, on nous demandait, vous mettez quoi comme maquillage, comment, c'est quoi votre marque préférée.
Est-ce que c'est vous qui...
Est-ce que c'est vous qui jouez?
Voilà, c'est plus ça qui m'a
Est-ce que c'est vous qui jouez sur l'album?
Oui.
Sur scène, c'est vraiment vous qui jouez? Enfin, bah oui.
En fait, comme il n'y avait pas d'autres groupes que de filles.
Alors voilà, ça, c'est un vrai truc. Là, si je cherche, je ne connais
que
pas filles, d'autres groupes de rock.
En fait, comme ça n'existait pas,
français
tout le monde
en tout cas,
disait,
parce qu'il y en a
français,
des.
Français. Ouais.
Mais donc tout le monde se disait, doit y avoir un truc.
Bah non, il n'y avait pas. Alors, c'est vrai qu'aussi, au début, en effet, ça rejoint ce que dit Louise, au tout début du groupe, les gens se disaient, non, c'est un groupe de filles, elles ne peuvent pas être arrivées là par elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on était forcément la fille de machin, la cousine de je ne sais pas qui.
On avait beaucoup d'argent.
On avait beaucoup d'argent. Et voilà.
Ou t'avais couché avec
un voilà, exactement.
Et c'est vrai qu'on devait se justifier, dire, non, mon père n'est pas Philippe Manœuvre. Je n'ai aucun lien de parenté avec lui.
On adorerait, mais non.
Moi, ce qui m'énervait, c'est que je devais justifier même parfois le fait que ma famille n'avait pas forcément beaucoup d'argent, et je trouvais ça un peu dégradant pour mes parents de devoir dire non,
ils n'ont pas beaucoup d'argent.
Ouais, ils n'ont pas beaucoup d'argent en fait, et c'est pas parce que mes parents ont de l'argent que j'ai réussi à faire ce que j'ai fait. Et je trouvais ça un peu,
pas comme ça. Donald Trump qui a eu un petit prêt d'un million de dollars de son
pour
père
commencer.
Pour commencer un petit prêt.
Aujourd'hui, on est en 2020, on est dans ma chambre et je voulais parler d'un gros sujet qui est la reconversion. Suite à l'arrêt du groupe, Aujourd'hui, il y a eu des reconversions qui se sont opérées. Moi, je les vois, je vous vois bien. Est-ce que vous pouvez chacune un peu raconter ce que vous faites aujourd'hui ? Allez, Loulou.
Allez, Loulou.
Alors, faut dire, Louise est la bassiste du groupe.
Oui.
Est-ce que tu joues toujours de la basse déjà ?
Plus vraiment. C'est une question qu'on pose beaucoup, mais moi, je joue de la basse avec les filles. Et la basse, c'est pas trop comme la guitare. Je me vois pas à la fin faire des solos de basse.
Toute seule. Enfin, tu peux jouer tu peux jouer les Blues Brothers toute seule ou...
je vois pas trop Louise. Les Blues Brothers toute seule.
Donc, du coup, plus de basse ?
Non, je joue plus et j'ai repris mes études donc, il y a un peu plus de 5 ans. J'ai repris donc en première année, il y a 5 ans, la fac d'Aix-en-Provence. Ça s'est super bien passé. Bah là, j'ai fini, j'ai validé mon master 2 en droit et fiscalité d'entreprise. Et j'ai adoré retourner à la fac. Déjà, la bienveillance des filles, quand j'ai annoncé que j'avais envie de me frotter dans la tête et que je voulais reprendre les défis. C'est important pour moi qu'elle... Non, pas qu'elle donne.
Ça aurait été horrible, imagine. Je veux reprendre mes études. Oh non!
C'est important pour moi qu'elle soit avec moi dans cette démarche. Et là, j'enchaîne, je fais une année d'école de commerce et je continue.
Tu ne t'arrêtes jamais. Des études pour toute la vie. Je vais faire tous les cursus.
Et Louise était. Elle dit pas, mais elle était quand même. Majeure de promo.
Oh.
On était très fiers d'elle. À chaque fois, pendant ses partiels, elle nous disait « J'ai foiré !» Et nous, on sautait trop d'elle parce qu'on savait très bien que c'était faux. Et après, un mois après, elle disait « C'est bon !» Ah bah oui.
Et Louise, il me semble que tu viens de te marier.
Yeah.
Oh les cruches.
Et elle s'est mariée avec celui qui était le fidèle photographe des Starliners. Donc voilà, si Louise en est là aujourd'hui, c'est un peu grâce aux Starliners aussi.
C'est vrai,
voilà.
Tout se rejoint.
Ouais, tout est là.
Alors du coup, je passe à Cathy. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Cathy?
Bah alors moi, du coup, après l'arrêt des plasticines, j'ai arrêté de faire de la musique professionnellement, on va dire, pendant à peu près 4 ans. Je pense que j'avais besoin d'une pause, en fait, après tout ça aussi. Et du coup, je pense que arrêter pendant 4 ans, ça m'a fait du bien, parce que du coup, en fait, les mois, les années passaient, et en fait, ça me démangeait de plus en plus de refaire de la musique. Alors maintenant, je sais que je fais un projet toute seule, pas en groupe, mais voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à décider, mais il y a les chansons qui arrivent petit à petit, donc je suis plutôt contente. Et
on te voit bosser comme une malade, moi je regarde tes stories, t'es tout le temps en train de faire de la musique.
Ouais, tout le temps.
Et c'est très bien.
Et des gâteaux.
Parce que nous, on écoute, et nous, on mange les gâteaux de Cathy en écoutant, et c'est un délice.
C'est vrai, ça.
C'est un délice.
Mais j'espère que voilà, vous faire écouter des choses très prochainement.
Bah, on espère aussi.
Mais en tout cas, c'est en cours et je suis hyper contente de me remettre là-dedans. Et même si je ne suis pas avec mes copines,
elles
vont me manquer.
Vous êtes toujours amies.
Mais je les vois quand même. Mais je suis hyper contente de refaire un peu de musique, en tout cas.
Alors du coup, on va passer à ma droite, à Anna.
À ma droite.
Anna, nous avons eu l'occasion de partager un petit bout de confinement ensemble.
Oui.
C'était intense, c'était beau.
C'était intense. Je pense qu'on peut dire ça comme ça.
Confinement numéro 1.
C'était, ouais.
Alors Anna, je vais te laisser expliquer un petit peu où t'en es, mais je pense que des trois, on est quand même celle qui est le plus loin... du démarrage, hein.
Elle est bien loin. Ouais.
On est loin de ce qu'elle avait commencé. Et je récapitule que Anna avait une batterie à paillettes.
Ouais.
Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ?
Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Je viens d'accoucher déjà.
Déjà.
Voilà.
Bravo. On est ceux qui applaudissent quelqu'un dit qu'il a accouché.
Une petite Ivy qui va très bien. Cathy, c'est la marraine. Et puis Léa et Loulou, c'est les tatas.
Oh voilà. Oui, elle dit déjà tata.
À un mois, elle dit tata. Voilà.
Et elle marche.
Et le permis dans un mois. Donc voilà, ça, c'est une partie de ma vie qui a bien changé.
Anna, déjà, elle me disait qu'elle voulait 15 enfants. Alors,
Alors je suis revenue dessus. Hein, après les contractions, tu comprends, tu vas pas faire ça souvent. Hein, soyez honnête.
Mais t'as toujours dit que tu voulais une grande famille, en tout cas, que tu voulais avoir des enfants. Oui. C'était un truc.
Fallait rencontrer la bonne personne, mais.
On a toujours dit que
j'étais la première à aller avoir.
C'est vrai.
Ouais, aussi.
Et elle a tenu parole.
Et j'ai tenu parole. Donc voilà, ça c'est une partie de ma vie. Et l'autre partie de ma vie, je suis devenue infirmière en réanimation.
Non mais alors ça c'est fou quand même.
Voilà.
Parce que,
Il se passe quoi entre les deux?
Et c'est ça.
En fait, attends, par où je vais commencer cette histoire qui est très longue?
En fait, je suis arrivée en salle de réanimation, ils m'ont dit bon.
Bon, mets-toi là, c'est le Covid, c'est tout le monde. La Covid, excusez-moi.
La
mon
Covid.
Dieu. Et je pense que ce qui m'a fait le plus changer de vie, c'était les. Alors, c'est la note triste, mais c'était les attentats du Bataclan.
Ok.
Où vraiment. Voilà, ça a été un vrai tournant dans ma vie. Pour moi, on touchait à nous, à nos valeurs, à tout ce qu'on aimait, au rock'n'roll, au Bataclan, à nos vies, à Paris. Et voilà.
La liberté.
Et j'ai eu ce truc. Alors, c'est très cliché, hein, voilà, mais...
Pas du tout cliché.
Je pense alors, que j'avais envie d'aider. Voilà, c'est con. Hein, mais
ah non, mais alors, je trouve pas ça con du tout. Du voilà, tout.
J'avais qu'une envie, c'était de prendre mes affaires et d'aller au Bataclan, chose que... Très bête, hein, mais... et d'aider les gens. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Et je pense qu'après, il n'y a pas eu de retour en arrière.
Ça voilà. T'a donné l'impulsion de le faire.
De reprendre les études, c'était pile poil au bon moment. Je ne savais pas trop comment faire, je me suis fait un peu aider. J'ai passé un concours et je l'ai eu.
Alors, tu as beaucoup bossé aussi
ouais, j'avais pas mal bossé, mais en fait, ça a été et très facile parce que j'aimais ça passionnément, et j'aime toujours ça, heureusement. Mais après, c'est compliqué de passer d'une vie de... Encore une fois, c'est des clichés. Hein. C'est toujours les batteurs, les clichés, ça m'énerve.
Mais pas du tout.
si, je t'assure. non, de passer une vie, d'une vie de rockstar avec tes meilleurs amis, à rencontrer tous tes idoles, à faire le tour du monde 10 fois, à faire à vivre de ta passion, à rêver, à faire rêver les gens, à être sur scène. Enfin, voilà, c'est la meilleure vie. Donc tout s'est trop bien passé, on n'a pas de mauvais souvenirs, et même si on en a, en fait on les occulte parce que c'est pas ça le plus important. Donc c'est un peu bizarre de passer de cette vie un peu parfaite à une vie où tu touches le Pôle emploi et tu retournes sur les bancs de la fac. Voilà, c'est un peu bizarre.
Moi j'aurais arrêté ma carrière après les tongs, Cathy, mais ouais. Ça c'est mon avis.
Je la trouve très courageuse, en tout cas Louise et Anna, d'avoir repris.
C'était pas si facile, mais en même temps on l'a fait tout ensemble aussi.
En fait, pendant très longtemps, je me suis rendu compte que les gens avaient honte de dire qu'ils avaient changé de parcours en cours de route. Mmh. Et aujourd'hui, je rends compte de plus en plus de gens qui ont eu 1000 vies dans une vie, et je trouve ça tellement plus intéressant. Moi-même, j'ai eu honte pendant longtemps d'avoir fait plein de choix différents.
Ouais.
Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse quand on me raconte des reconversions.
Puis voilà, faut pas avoir peur en fait de prendre la décision de changer. Ouais. En effet, ça peut être des changements compliqués dans la vie, ça peut être financier, ça peut être par rapport à ce que les gens vont penser. Mmh. Mais en soi, en fait, faut faire ce qui rend heureux. Donc si sur le moment, ce qu'on fait en effet ne rend plus heureux, faut changer quoi.
Je pense que quand on a arrêté Plasticine, il y avait peut-être un truc. Dire que t'étais étudiant infirmier, par exemple, c'était un peu moins bien. Mmh. Alors que pas du
c'était
tout.
Moins cool,
c'était moins
non,
cool, forcément.
Moins cool.
Selon
mais
toi, voilà, au moment où tu devais le dire.
Un peu, je le disais pas à tout le monde. Enfin, j'étais pas aussi ouverte que maintenant où j'adore mon métier et je le dis à tout le monde. Et voilà, et j'encourage les gens qui veulent juste refaire 3 ans d'études et c'est super, il y a plein de choses à faire. Dans le milieu de la santé, en tout cas en France. Mais voilà, je pense qu'au début, il y a ce petit truc un peu...
Ça fait peur, en fait, aussi.
Ouais.
De
à nous-mêmes, ouais.
C'est l'inconnu, c'est normal. Mais je tiens à préciser que tu as quand même bossé aussi pendant des moments très compliqués, et notamment le Covid.
Ouais.
La Covid.
Covid. Allez, on y va.
Les Covid. Allez. pendant les Covid. Allez. Et que, voilà, c'est pas, j'imagine, ce à quoi tu t'attendais aussi quand tu as commencé ton métier. Ouais. Donc, toi qui veux aider les gens, je pense que tu es en plein dedans. Hein, on va pas se mentir.
Ouais, on est pas mal. Ça change de rock'n'roll, mais c'est très rock'n'roll parfois aussi. Hein.
Je voudrais terminer par quelques petites questions. Et vous pouvez répondre toutes les trois à votre tour à ma question. Si vous étiez une salle de concert...
Moi, je dirais La Cigale.
Moi aussi.
Moi, je suis la salle des fêtes de Poucharamé. C'est à côté de Toulouse. Et toi, Louise?
Bah, c'est bien La Cigale.
Ah,
ouais,
trois cigales.
Ouais, bah ouais.
Ouais, bah, bien sûr. Pas copine pour rien.
Et ouais.
Si vous étiez un spot de vacances,
Bali.
Bali. Arrête, Cathy, de.
Oh, mais arrêtez aussi d'être amie, merde.
Bali. Non, c'est vrai qu'en plus de tourner.
On avait fait des vacances ensemble à Bali.
On partait aussi en vacances ensemble. Ouais. Voilà, parce qu'on n'en avait pas marre de se voir. Alors,
on partait. Voilà,
on n'avait jamais assez. Et toi, Louise?
Moi, quelque part, c'est de.
Près de l'eau, ouais.
Oh, c'est vraiment la plus poète d'entre eux. Faites un effort, les deux. Hein. Si vous étiez une chanson...
Moi, je dirais Summer Wine de Lia The Wood et Nancy Sinatra.
Ah, je vais la passer.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.
Encore cliché, mais c'est une chanson d'un mec qui s'appelle Leon Bridges, qui s'appelle River. Et ma fille est née dessus.
Et voilà.
Je suis tombée amoureuse de mon conjoint sur cette chanson. Et voilà, et j'adore ce mec.
Ce qui est très gênant, c'est qu'ils mettent cette playlist quand on va chez eux. Donc du coup, on a l'impression
qu'il
y a un truc électrique dans l'air. T'as l'impression d'assister à quelque chose où t'es pas convié. Si tu n'étais pas toi, tu serais qui ?
John Lennon.
Ah ouais ? Toi, j'aurais dit France Gall pour toi.
Ah ouais. Ok.
Ok.
C'est vrai que j'aurais pu dire France Gall. Bah ouais. En plus, je l'ai rencontrée, elle a été si mignonne avec
mais
moi.
Mais c'est tellement... Tu es tellement elle aussi, donc...
Ça a été une de mes rencontres. Alors, c'est pas grand-chose, c'est une rencontre de 2 secondes. Mais j'avais passé une audition pour peut-être...
Bah, la comédie musicale.
Oui, voilà, pour la comédie musicale que France Gall a faite. Sauf que pendant l'audition, France Gall était présente. Alors moi, je n'étais pas du tout au courant avant de le faire. Et j'arrive et il y a France Gall. Donc pour moi, c'est un truc de malade parce que je suis fan, je l'adore depuis toujours. Avec Plasticine, je me souviens, on reprenait souvent France Gall. Et donc j'arrive dans la salle de l'audition et elle me prend dans ses bras. Elle me dit « Oh, ma roqueuse !» Et là, je me dis « Donc, elle me connaît. » Et en plus, elle me prend dans ses bras. Et j'ai trouvé ça, incroyable. Donc je fais le truc, voilà, je chante devant elle. Alors le pire truc, c'est chanter une chanson de l'interprète devant lui.
Bah oui.
À la fin, elle vient me voir, elle me dit bah alors ça s'est bien passé pour toi. Je lui dis bah ouais, enfin c'est stressant. Elle me dit t'inquiète pas, si t'as réussi à faire ça, t'arriveras à tout faire dans ta vie.
Ah.
Et du coup tu vois, je le garde en moi cette petite phrase. Oui. Et elle était trop mignonne et tellement bienveillante.
Et pourquoi ça a pas été toi?
Ah bah c'était l'autre. On était deux, c'était l'autre.
J'aimerais être une politicienne et faire
qui fait bouger les choses.
Ouais, qui fait des choses.
Kamala Harris.
Un peu. ou un petit côté Michelle Obama, voilà, faire des trucs bien pour
la vie.
Pour la vie, pour le système français, pour les enfants, pour l'éducation, pour l'hôpital. Voilà, j'aimerais faire des choses comme ça.
Louise, si tu n'étais pas toi,
non,
tu serais qui?
Je peux pas juste essayer de faire de mon mieux avec qui je suis.
Oh, c'est pas mal, c'est beau.
C'est beau,
mais
beau.
C'est la poète.
Elle a craqué le code, en fait,
ah là
c'est
là.
Ça. Et alors, on va terminer en douceur ce podcast qui est déjà bien long. J'espère que vous dormez depuis longtemps ou que vous avez encore beaucoup de route. Alors le bonus, c'est qu'est-ce que la toi d'aujourd'hui aurait envie de dire à la toi de l'époque?
Moi, je dirais change rien.
Non, tout
alors
tout
en fait, style. Non, bah, ouais. je pense que je suis très chanceuse dans la vie. Je crois beaucoup au karma, voilà. Et je pense que si tu fais des bonnes choses dans ta vie, des bonnes choses t'arriveront. Et voilà, moi, c'est un peu mon leitmotiv.
Tu crois au karma plus ou aux énergies, genre en mode quand tu projettes quelque chose de très...
Non, mais même vraiment faire des choses, aider des gens, voilà, c'est un peu un truc. J'imagine que quand t'aides quelqu'un, donc je me dirais de continuer comme ça et parce que je suis encore une fois très chanceuse d'avoir eu la vie qui est pas finie, hein, j'ai que 32 ans, mais le début de vie que j'ai eu, voilà, ma famille, je les aime fort et ils vont tous très bien et on est très soudés. J'ai des amis incroyables, j'ai eu une vie de rockstar superbe, j'ai rencontré l'homme de ma vie, j'ai un enfant parfait qui est en bonne santé. Donc voilà, je pense que c'est des choses où arrivé aujourd'hui, ben je me dis que j'ai
change rien.
J'ai dû faire des bonnes choses. Alors voilà,
il y a peut-être fait les bons choix.
J'ai fait peut-être des erreurs, mais voilà, j'ai eu un bon parcours de vie et je pense que c'est important de dire quand on aime bien dire quand les choses vont pas bien, encore une fois, mais quand tout va bien, il faut le dire et voilà, je serais peut-être un peu plus gentille avec moi voilà quand t'es ado ou quand t'es jeune femme et que nous en plus on était très exposés, on avait beaucoup de photoshoots, voilà, quand t'es pas forcément bien dans ton corps, peut-être des moments où
c'est un peu ce que j'allais dire d'avoir en fait plus confiance en soi. Parce qu'en fait, quand je regarde les photos maintenant, je me dis, mais on était parfaite, on était trop bien, tu vois.
Alors et c'est vrai que pourtant... On a pleuré pendant des shootings.
Et on n'avait aucune confiance en nous, quoi. C'était
c'était compliqué pour certains moments parce qu'on nous mettait en couverture de magazines, machin. Nous, on n'était pas des mannequins, quoi. Ouais. On était juste des petites meufs qui veulent faire de la musique.
Bah oui, mais
donc, on savait pas forcément comment faire et on n'était pas à l'aise avec notre corps. Et du coup, parfois, c'était difficile pour ce genre de choses. Mais en soi, on n'avait pas de soucis, quoi. Enfin,
donc, te dirais de plus te faire confiance.
Ouais, complètement.
Plus bienveillante avec toi-même.
Exactement.
Et toi, Louise ? Louise, on la trimballe sur la table. Elle change de place toutes les 5 minutes. Louise, toi, qu'est-ce que t'aimerais te dire à ton toi du passé ?
De me détendre un petit peu.
De te détendre un petit peu.
Ah oui, c'est vrai que Louise était peut-être la plus stressée.
Choix, en général, et que c'est la bonne chose à faire. Mais moi, j'ai plutôt bien vécu toute la période du groupe. On a tous des moments plus ou moins hauts ou bas, mais je me suis quand même beaucoup amusée. Et je pense qu'on s'amuse encore beaucoup entre les filles. Donc, je voudrais juste être quelqu'un un peu moins angoissé, un peu moins stressé, mais c'est quand même. On a quand même une chance incroyable, donc je dirais, hésite pas trop avant d'arrêter de partir dans l'aventure professionnelle.
Sur ces belles paroles,
on était très contentes de faire ça avec toi. En tout
merci,
cas.
Léa.
Ah ben moi, je suis ravie. On a bu 53 litres de thé. on est maintenant prête
à faire pipi
pour ne pas dormir. À faire pipi.
Merci à Cathy, Anna et Louise pour ce moment au coin du feu. Vous venez d'écouter le tout premier épisode de The Raccoon Club, le club de ceux qui aiment les histoires et les raccoons, mais surtout les histoires. Vous pouvez me soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts, en venant vous abonner sur Instagram, @TheRaccoonClubPodcast, j'ai actuellement 4 abonnés, et en partageant cet épisode s'il vous a plu. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos applications de podcast préférées. À très vite pour de nouvelles histoires incroyables.